Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. Ouverture mercredi du synode sur la synodalité. Avant cet événement, le pape François a répondu au doubia des cinq cardinaux. Rentrée pastorale dans les diocèses de Gaoua au Burkina Faso, rentrée missionnaire aussi dans l'archidiocèse de Douala au Cameroun. Nous en parlerons dans l'actualité de l'Église. Une crise de la faim se profile pour les Sud-Soudanais qui reviennent dans leur pays en fuyant les combats qui déchirent les Soudans voisins. Les prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege, candidat à la présidentielle de décembre en République démocratique du Congo. Ce sera dans l'actualité sociale et politique africaine. Nous conclurons cette édition par la rubrique sur les prises de position des évêques et la vie des chrétiens dans le monde. Encore une fois, bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Stanislas Kambashi.
Le pape François a répondu au doubia, les doutes qui lui ont été adressés par cinq cardinaux. Les cardinaux Brandmüller, Burke, Sandoval Iniguez, Sarah, Ezen, Zekyun avaient présenté au pape cinq questions demandant des éclaircissements sur certains points relatifs à l'interprétation de la révélation divine, à la bénédiction des unions homosexuelles, à la synodalité comme dimension constitutive de l'Église, à l'ordination sacerdotale des femmes et au repentir comme condition nécessaire à l'absolution sacramentelle. Longtemps après ces doubia, les réponses du pape ont été publiées lundi sur les sites du dicastère pour la doctrine de la foi. Il est important de souligner que ce qui ne peut pas changer, c'est ce qui a été révélé pour le salut de tous. Par conséquent, l'Église doit constamment discerner ce qui est essentiel pour le salut et ce qui est nécessaire, ou moins directement lié à ses buts. L'Église doit être humble et reconnaître qu'elle n'épuise jamais la richesse de la révélation et qu'elle a besoin de grandir dans sa compréhension, a écrit François, qui appelle les pasteurs à faire preuve de charité et de prudence pastorale dans l'exercice de leur ministère sacerdotal. L'exhortation apostolique du pape François, Laudate Deum, sera publiée ce mercredi 4 octobre à la fête de Saint François d'Assise. Des questions écologiques y sont notamment abordées, ainsi que celles liées aux efforts de l'homme pour la sauvegarde de la création. Mardi, la veille de l'ouverture du synode sur la synodalité, les participants et délégués à ce synode ont achevé leur retraite à la Fraterna Domus de Sacrofano à quelques kilomètres de Rome. Ce moment de prière, commencé le samedi 30 septembre, était une préparation spirituelle au synode, comme l'avait souhaité le pape François. Et rappelons que ces grands rendez-vous tant attendus, les synodes sur la synodalité, s'ouvrent ce mercredi 4 octobre avec la messe qui présidera sur la place Saint-Pierre le pape François et qui sera concélébrée notamment par les nouveaux cardinaux. L'actualité de l'Église en Afrique nous conduit au Cameroun. Les personnes consacrées, membres de l'Union des religieux et religieuses de l'archidiocèse de Douala, ont fait leur rentrée missionnaire le 30 septembre dernier. Cette année, elles entendent mettre l'accent sur l'amélioration des rapports mutuels avec l'évêque, les prêtres séculiers et les religieux, afin de mieux participer à la communion organique de l'Église sur les terrains de la pastorale d'ensemble. Les comptes rendus de notre correspondante Paul-Valérie Mundogo.
Ils étaient environ 200 membres de congrégations religieuses et d'instituts séculiers œuvrant dans l'archidiocèse de Douala à prendre part à cette rencontre. Père Vital Kenlefa, qui est le supérieur général des frères missionnaires de Kana.
Mais c'est une très belle journée et quand on voit toute la dynamique de participation aux grandes questions qui se posent, on s'intègre là en plein dans la démarche synodale dans laquelle le Saint-Père, le pape François a engagé l'Église. Qu'on réapprenne à être Église ensemble. Ça manque. L'Église est d'abord communion de communautés.
Entre autres activités adoptées par les personnes consacrées de l'archidiocèse de Douala pour la nouvelle année pastorale, figure en pole position la rencontre avec l'archevêque de Douala au sujet des modalités de communion organique de l'Église qui est à Douala.
Nous sollicitons que le père archevêque nous instruise sur les rapports Église consacrée, c'est-à-dire Mutui Relationes, qui est le document de base qui, justement, organise ces rapports-là.
Comment travailler en relation avec le diocèse sans se sentir totalement exclu?
Les religieux et religieuses de l'archidiocèse de Douala ont pris aussi l'engagement de soutenir la pastorale de l'archevêque, notamment dans la réussite du synode triennal sur les jeunes. Paul Valéry Mondogo, DDA pour Radio Vatican.
Synodalité et autoprise en charge, un binôme inséparable pour une église responsable et autonome. C'est le thème des 12e journées pastorales du diocèse des Gaoua au Burkina Faso. Le week-end dernier, une centaine de fidèles et agents pastoraux de ces diocèses étaient réunis autour de l'évêque pour le lancement de l'année pastorale 2023-2024. Les précisions de Paul Da, notre correspondant.
Du 26 au 29 septembre dernier, une centaine de fidèles du diocèse de Gaoua, clercs, consacrés et laïcs, se sont retrouvés au centre diocésain de pastoral pour lancer les activités pastorales de la nouvelle année 2023-2024. De l'avis des participants à l'évaluation, les activités des journées pastorales autour du thème mobilisateur, synodalité et autoprise en charge, un binôme inséparable pour une église responsable et autonome, ont tenu toutes leurs promesses. L'évêque du diocèse, Mgr Modeste Kambou, est du reste du même avis.
Au terme de cette 12e journée pastorale, je peux dire que les résultats escomptés sont largement atteints. Pour cela, avec vous, je bénis le nom de notre Dieu.
Ceci étant, Mgr Modeste a rappelé aux participants la vision du diocèse.
La vision de notre diocèse depuis sa création est de bâtir une église famille de Dieu qui, transformée par la rencontre du ressuscité, relève les défis de l'unité, de la sainteté et de l'autoprise en charge. Le contexte international, national et diocésain nous impose de mettre l'accent sur l'objectif stratégique service.
Ces 12e journées pastorales du diocèse de Gaoua se sont achevées par une messe d'envoi en mission célébrée par Mgr Modeste Paul de Ouagadougou pour Radio Vatican.
Actualité sociale et politique en Afrique. Ouvrons l'actualité sociale et politique en Afrique par les Soudans du Sud. Une crise de la faim se profile pour les Sud-Soudanais revenus dans leur pays après avoir fui les combats qui déchirent les Soudans voisins depuis plus de 5 mois, a averti mardi le Programme alimentaire mondial PAM. Depuis son déclenchement le 15 avril, la guerre au Soudan entre l'armée et les paramilitaires des forces de soutien rapide a fait près de 7500 morts, selon des estimations de quelques organisations. Elle a également provoqué les déplacements de plus de 5 millions de personnes, dont 2 800 000 ont fui la capitale Khartoum, théâtre des frappes aériennes incessantes, des tirs d'artillerie et des combats de rue. Les Sud-Soudanais qui avaient fui ces combats cherchent à retourner dans leur pays où la situation humanitaire est déjà critique. Le PAM a déclaré ne pas avoir assez de ressources nécessaires pour fournir une assistance vitale à ceux qui en ont le plus besoin. En République démocratique du Congo, les prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege, a annoncé lundi sa candidature à la présidentielle prévue le 20 décembre. Denis Mukwege, gynécologue, surnommé l'homme qui répare les femmes victimes des viols dans l'Est congolais, sera l'un des principaux challengers du président Félix Tshisekedi qui tente de briguer un second mandat. Sous sa gouvernance, selon Mukwege, les rapaces ont fait main basse sur les richesses de la RDC, devenue, toujours selon lui, la honte du continent. À Kinshasa, les précisions de Pascal Moulegua.
Demain sera tard, j'y vais maintenant. C'est sous ces mots que le lauréat du prix Nobel de la paix de 2018 a mis fin à plusieurs mois de suspense. Denis Mukwege arrivait point levé sous les auras de ses partisans. La paroisse Fatima de Kinshasa a ainsi confirmé qu'il déposera sa candidature ce mardi. Le célèbre gynécologue congolais de 68 ans se considère désormais comme le choix du peuple, lui qui est devenu depuis 5 ans un interlocuteur incontournable pour nombre des dirigeants qui se rendent à RDC. Le médecin congolais surnommé l'homme qui répare les femmes s'est ouvertement lancé dans une forte critique du régime Tshisekedi. Dans cette course, Mukwege n'y va pas seul. Ses soutiens ont mis en place depuis 5 mois l'Alliance des Congolais pour la refondation de la nation, un regroupement des 8 partis politiques qui ont présenté plus de 400 candidatures aux législatives nationales. Reste à savoir si à 2 mois et demi du scrutin, il parviendra à s'imposer au sein d'une opposition qui avance en ordre et dispersé. Plusieurs poids lourds, dont Martin Fayulu et Moïse Katumbi, se sont déjà déclarés candidats. Pascal Moulegua, Kinshasa, RFI pour Radio Vatican.
Le gouvernement ivoirien a récusé mardi des allégations d'organisations internationales selon lesquelles ses ressortissants constitueraient une forte proportion des migrants arrivés récemment de manière illégale en Italie. Selon l'Agence européenne des gardes-côtes et des gardes-frontières Frontex, les milliers de migrants arrivés en Italie cette année sont principalement ivoiriens, égyptiens et guinéens. Le Haut Commissariat aux Nations Unies pour les réfugiés HCR souligne de son côté que les Ivoiriens sont la deuxième nationalité représentée parmi les ressortissants subsahariens arrivés en Italie depuis janvier. Faux, a rétorqué le ministre ivoirien de l'Intérieur, Vagondo Diomande, dans une déclaration. Au moins 40 passagers sont portés disparus et présumés morts après le naufrage d'un bateau lundi sur le fleuve Niger dans le nord-ouest du Nigeria, a déclaré mardi un responsable local. Créer un cadre avec des salles pour permettre aux jeunes d'apprendre des petits métiers, de créer des bibliothèques réelles et virtuelles et être suivis, c'est l'initiative que l'archidiocèse de Douala au Cameroun a prise afin de mieux accompagner les jeunes et être proche d'eux. Dans cette partie de l'interview accordée à Radio Vatican, Mgr Samuel Cléda, l'ordinaire du lieu, nous explique l'importance de cette initiative.
Ce projet-là se justifie très très bien parce qu'il faut trouver des lieux où les jeunes peuvent se retrouver. Et le lieu, n'est-ce pas, c'est l'aumônerie. Et nous voulons donc que dans chaque paroisse, qu'il y ait une aumônerie, pouvant, n'est-ce pas, une construction. On mettra, comme aujourd'hui nous connaissons très bien, ce que les jeunes vivent aujourd'hui, n'est-ce pas, les médias, conçus des salles, où on mettra tout à leur disposition, les moyens de communication, mettre à leur disposition des ordinateurs, qu'ils viennent là et créer, n'est-ce pas, des bibliothèques réelles et puis aussi des bibliothèques virtuelles, n'est-ce pas, dans ce centre-là. Il y aura, n'est-ce pas, des structures où le jeune peut apprendre petit métier, à être soudeur, à être menuisier, à être maçon. Nous allons intégrer tout cela. Nous avons besoin, en fait, de ces techniciens-là.
Quels sont les moyens humains, matériels et financiers que vous disposiez pour la réalisation de ce projet?
Mais c'est sûr que les moyens ne vont pas. Nous sommes à Douala. Les chrétiens, vraiment, nous accompagnent. Et nous allons, n'est-ce pas, compter avant tout sur le chrétien. Et ils vont nous aider pour réaliser, n'est-ce pas, ces infrastructures-là. Il y a déjà certaines infrastructures qui fonctionnent très bien à ce niveau-là, où les jeunes ont là leur lieu de rencontre, leur lieu de prière, leur lieu d'étude. Mais nous comptons surtout pour les moyens financiers sur nos fidèles. En ce qui est réel à la spiritualité, les prêtres sont là à leur service, les aumôniers sont là à leur service.
Quelle peut être l'implication du gouvernement camerounais dans cette initiative d'accompagnement des jeunes?
En fait, nous ne sommes pas seuls, mais à Douala, nous avons, n'est-ce pas, les responsables au niveau, soit au niveau départemental ou au niveau régional. Nous sommes en collaboration avec eux. Lorsque nous faisons de grands rassemblements, nous avons ce qu'on appelle les journées de jeûne ou bien des nuits de jeûne. Les responsables sont là. Donc nous leur tendons la main et ils nous répondent. Ils ne nous laissent pas seuls faire ce travail.
Pour cette jeunesse confrontée à tant de difficultés, à la migration par exemple, quel est votre appel ou votre conseil en tant que pasteur?
Justement, le problème que vous soulevez est un problème assez grave. Comme je le disais tout à l'heure au début, mais il y a des jeunes n'ayant pas trouvé de travail sur place, ou même quelquefois, ils ont un travail mais qui n'est pas... Il n'est pas satisfait de ce travail-là. Il choisit donc de quitter pour aller vivre ailleurs. Et nous leur disons que non, la solution n'est pas de se jeter, n'est-ce pas, dans l'aventure, mais de rester dans le pays.
Que doivent faire d'autres églises locales allant dans le même sens que vous?
Nous sommes tous conscients de ce problème. Il n'y a pas un modèle unique, mais le tout c'est d'être sensible, n'est-ce pas, à la présence de jeunes, être à l'écoute de jeunes et, selon le milieu, on découvre ce qui est nécessaire à leur offrir.
Merci, Monseigneur. Vous avez un mot de fin?
Tout simplement, prions pour les jeunes et faisons tout pour être vraiment au service de notre jeunesse. C'est Merci. L'avenir de l'Église.
Monseigneur Samuel Cléda, archevêque de Douala au Cameroun, dans des propos recueillis par Jacques Ngol. Et concluons notre édition avec la rubrique sur les prises de position des évêques et la vie des chrétiens dans le monde. Jacques Ngol.
L'Église universelle s'apprête à vivre l'Assemblée synodale des évêques qui commence ce mercredi 4 octobre. Parmi les participants à ce synode, l'Église de France y sera représentée par plusieurs évêques, parmi lesquels Mgr Mathieu Rougier à la tête du diocèse de Nanterre depuis 2018, qui confie ses attentes à quelques jours de l'ouverture de cette Assemblée.
Le synode qui commence est un moment important pour que nous nous mettions à l'écoute de ce que l'Esprit dit à son Église en ce temps pour qu'elle soit véritablement missionnaire, c'est-à-dire pour qu'elle annonce à tous la bonne nouvelle du salut. Je suis très touché par la confiance de mes frères évêques français qui m'ont élu avec d'autres pour les représenter à ce synode. J'aborde ce travail avec un grand désir d'être à l'écoute de ce que le Seigneur veut nous dire, avec un grand désir aussi de rencontre de tous ceux qui viennent de régions très différentes de la mienne, non seulement sur le plan culturel, mais sur le plan ecclésial aussi. Je demande au Seigneur de nous guider pour que nous puissions vraiment être habités par le désir de mieux faire résonner le mystère de sa mort et de sa résurrection en vivant davantage nous-mêmes.
Des propos recueillis par Delphine Allaire. Depuis la réouverture du couloir de Lanchine, plus d'un tiers de la population du Haut-Karabakh a pris la fuite pour se réfugier en Arménie. À Erevan, les autorités affirment avoir recensé plus de 50 000 arrivées. À Gori, ville de premier accueil, les associations manquent déjà de pain. Il faut trouver de quoi loger les nouveaux venus. Des milliers sont encore sur la route dans l'espoir de passer la frontière. Malgré les promesses de Bakou, ils craignent un génocide. Pour souligner la gravité de cet exode, marquer un temps de communion avec le peuple arménien et appeler les acteurs internationaux à l'action, l'œuvre d'Orient s'est joint à un rassemblement organisé jeudi. Mgr Pascal Golnisch, directeur général de l'œuvre d'Orient et vicaire général de l'Ordinariat des catholiques orientaux en France, revient sur le sens de cette démarche.
Il s'agit pour nous, d'abord de marquer notre solidarité. Deuxièmement, c'est des demandes faites aux autorités diplomatiques internationales de prendre des moyens pour éviter que la police et l'armée de l'Azerbaïdjan pénètrent complètement au Haut-Karabakh, pour demander la liberté de passage pour la population, pour exiger qu'il n'y ait aucun prisonnier, parce qu'Aliyev s'est mis dans la tête de faire des milliers de prisonniers arméniens. On sait que les Arméniens dans les prisons de l'Azerbaïdjan sont torturés, etc. Donc refuser les prisonniers, demander la libération des prisonniers qui existent déjà, demander un plan d'aide pour la population arménienne qui est réfugiée d'ores et déjà en Arménie. Donc il doit y avoir un plan d'urgence des Nations Unies pour soutenir cette population. Et ensuite, aider concrètement la population qui resterait au Haut-Karabakh.
Mgr Golnisch, interviewé par Marie Duhamel. L'état de Michoacán est un état violent avec une histoire de violence croissante, avec des affrontements entre bandes criminelles dont certaines semblent également impliquées avec les autorités. C'est ce qu'a déclaré Mgr Carlos García Merlos, archevêque de Morelia au Mexique, à propos du contexte d'insécurité et de terreur qui sévit depuis quelques années dans l'état du Michoacán. Mgr García a indiqué par ailleurs que l'archidiocèse de Morelia est impliqué dans l'assistance aux victimes, les relations avec la société civile et les autorités à tous les niveaux, la formation et l'éducation à la paix. Les valeurs humaines, l'amour, la confiance, le respect et la solidarité ont été perdus. Dieu a été expulsé de l'espace public, ce qui a conduit à une humanité désintégrée, dépourvue des fondements anthropologiques et avec une forte tendance à la prédation, a déclaré l'archevêque de Morelia, qui a lancé un nouvel appel au dialogue et à la paix face à la situation actuelle de violence, non seulement dans l'archidiocèse, mais aussi dans d'autres localités du Michoacán et dans l'ensemble du pays.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du service Français-Afrique de Radio Vatican, Stanislas Kambashi, qui vous l'a présenté, vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.